Il se trouve que depuis avril 2021, nous avons commencé une série sur l'évangile de Luc. Et on avance petit à petit dans ce parcours de l'évangile de Luc. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'aborder le chapitre 9 de Luc. Mais avant cela, un petit rappel de la manière dont Luc a structuré son évangile. Luc propose en fait quatre grandes parties dans l'évangile. Une première partie où c'est un début calme et tranquille, mais certain, de Jésus comme fils de Dieu. Une deuxième partie où on voit le ministère de Jésus se développer et devenir de plus en plus puissant. Une troisième partie qui est la plus longue dans l'évangile de Luc, qui porte sur le royaume de Dieu et le voyage de Jésus jusqu'à Jérusalem. Et enfin, l'apothéose avec la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous allons donc aborder le chapitre 9, qui est la fin de cette deuxième partie de l'évangile de Luc. Le Fils de l'homme annonce une bonne nouvelle pour les opprimés, un défi pour les puissants. Et donc, comme c'est la fin de cette deuxième partie, bien, c'est un peu le même principe que dans un feu d'artifice. On a un bouquet final dans la dernière partie du feu d'artifice. Ça part un peu dans tous les sens, on nous en met plein les yeux. C'est ce que Luc fait dans ce chapitre 9, et on va voir ensemble pourquoi. Alors, un tout petit rappel sur Luc. Vous vous souvenez que l'évangile de Luc est écrit dans une perspective spécifique. L'objectif de Luc, c'est de montrer que Jésus est vraiment le Fils de l'homme, c'est-à-dire un homme, avec toutes les caractéristiques humaines, voilà. Et en même temps, à travers ce Fils de l'homme, de nous faire réaliser à quel point Jésus est vraiment le roi qui était attendu, le Fils de Dieu, et un homme qui a des caractéristiques et qui est pleinement Dieu en même temps, et qui a des caractéristiques divines. On peut garder cela en tête, puisque ça oriente toute notre manière de comprendre cet évangile, et puis les passages qu'on va lire ensemble. Alors, notre chapitre 9, c'est donc fait partie de ces chapitres 4 à 9, où on a vu d'abord que le salut vient avec puissance dans les chapitres 4 à 6, et puis dans les chapitres 7 à 9, Le fil rouge, c'est de montrer que Jésus est plus grand qu'un prophète, plus humble qu'un roi. On a eu l'occasion de le voir déjà avec le message d'Aurélien sur le chapitre 7, le message de Pierre sur le chapitre 8. Et regardez en résumé ce que Aurélien nous avait expliqué, c'est que le Fils de l'homme est bien le roi attendu. Les disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et devant eux, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rend la vue à bien des aveugles. Par ses actes, il prouve qu'il est bien le roi qui était attendu, le Messie qui devait venir. Voilà, Jean-Baptiste a sa réponse. Chapitre 8, là, l'objectif, c'est de montrer que le Fils de l'homme est bien le Fils de Dieu. Alors, Jésus dit « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Donc, il parle d'une fille qui est morte. Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte, mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle, et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Et la fille de Jaïrus, donc, est ressuscitée, ce qui prouve bien que Jésus est plus qu'un fils de l'homme, il est bien le Fils de Dieu. Il a des pouvoirs extraordinaires. Et alors, dans ce chapitre 9, j'aimerais poursuivre et voir ensemble comment, de manière extraordinaire, Luc nous montre à quel point et enfonce le clou pour nous faire réaliser à quel point Jésus est bien le Fils de l'homme, plus grand qu'un prophète, est plus humble qu'un roi. Dans ce chapitre 9, il y a une série d'événements à la suite les uns des autres, de manière beaucoup plus rapide que que Luc nous propose au chapitre 7 ou au chapitre 8. Ces événements, vous les voyez, il envoie ses 12 apôtres, du verset 1 à 9, il multiplie les pains et les poissons, du verset 10 à 15, il affirme être le Messie de Dieu, de 18 à 27, et de 28 à 36, il y a l'épisode de la transfiguration, 37 à 45, la guérison d'un démoniaque, et puis 46 à 50, un débat entre disciples, à savoir qui est le plus grand parmi eux. Et ce que j'aimerais vous proposer de voir ensemble ce matin, c'est d'essayer de toucher du doigt à quel point tous ces événements qui sont racontés les uns après les autres sont en fait reliés les uns aux autres. Et que Luc n'a pas simplement rassemblé des événements au sujet de Jésus dont il a entendu parler et qu'il compile de manière simplement historique ou chronologique, mais qu'il y a beaucoup plus que ça, qu'il y a vraiment un objectif qui vise à montrer à quel point Christ est réellement plus grand qu'un prophète et plus humble qu'un roi. Alors, tout d'abord, plus grand qu'un prophète. C'est très frappant dans ce chapitre 9 de trouver la mention de plusieurs prophètes. Il est mentionné à plusieurs reprises Élie, Jean-Baptiste, mais aussi Moïse. Et alors, Jésus, le but de cela, c'est vraiment de montrer d'abord que Jésus est bien un prophète. Mais j'aimerais, avant cela, vous lire ensemble ces extraits de chapitre 9 à 1, versets 7 à 8. Hérode le tétrarque, donc c'est le souverain de cette région de Palestine, Hérode le tétrarque entendit parler de tout ce qui se passait. Il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité, donc Jean-Baptiste, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des prophètes d'autrefois était ressuscité. Les actions de Jésus font réellement réagir la population locale, qui se disent, tiens, c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe, on a un nouveau prophète. Deuxième extrait, un jour Jésus pria à l'écart, ses disciples étaient avec lui, il leur posa cette question, « Qui suis-je ?» d'après les foules. Ils répondirent, « D'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. » On retrouve exactement la même expression qu'avant. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il, puis il répondit, « Le Messie de Dieu. » Donc, il y a vraiment dans la culture religieuse de l'époque, une référence, le prophète, c'est quelque chose qui parle aux gens, c'est une personne qui a un rôle particulier et qui est connue de la population locale. On le voit encore avec la transfiguration. Environ 8 jours après avoir dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une blancheur éclatante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. C'est quoi un prophète ? Un prophète, tel qu'on le voit à travers les Écritures, c'est en fait un messager de la part de Dieu qui va révéler qui est Dieu. Auprès de la population qu'il côtoie. Autrement dit, son objectif, c'est un objectif de médiateur. Dans une société dans laquelle le livre est extrêmement rare, et il y a les écrits de Moïse, etc., mais dans une société où c'est avant tout par la communication orale qu'on s'exprime, la compréhension de Dieu est encore limité à cet Ancien Testament, et les prophètes sont là comme médiateurs pour faire comprendre et connaître qui est Dieu, quel est son message pour la population locale. Voilà ce que les gens disent lorsqu'ils pensent que Jésus est un prophète. Ils se disent, voilà quelqu'un qui est là pour nous révéler les choses de Dieu, quelqu'un qui est pour nous transmettre une meilleure connaissance de qui est Dieu, dans un langage qu'on peut comprendre. Et cette attente, cette importance du prophète dans la vie du peuple d'Israël, elle est très visible loin en arrière dans la Bible. Lorsqu'on regarde dans Deutéronome, chapitre 18, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, notre très frère, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Donc c'est Moïse qui parle, et qui dit « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Bref, de la même manière que Moïse était un prophète en son temps, il a aussi annoncé la promesse qu'il y aurait un prophète extraordinaire qui viendrait en son temps. On lit même dans Actes 3, 22, une interprétation de l'Ancien Testament qui dit bien que le Messie est un prophète. Actes 3, 22, 23, Moïse a dit « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera dans votre beau-frère un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » Ce texte affirme bien que le Messie est un prophète et donc Christ remplit cette condition d'être un prophète. Ce qui est assez impressionnant, c'est que Luc, dans ce chapitre 9, insiste sur les ressemblances qu'il y a entre Jésus et les prophètes dont il est mention dans ce passage. Je vous donne le nom des trois prophètes qui sont cités et je vous explique ce que ça veut dire. Comme Moïse, qui dans le désert a intercédé pour que Dieu envoie de la manne pour nourrir le peuple chaque matin à leur réveil. Eh bien Jésus, face à la foule qui était dans le désert et qui avait faim, a multiplié 5 pains et 2 poissons et donc a pris soin de son peuple. Comme Élie, qui a multiplié de l'huile et de la nourriture pour une veuve qui était sans ressources et qui n'avait plus rien à manger. Elle avait un fils et elle attendait plus que la mort. Et bien, de la même manière, Jésus lui aussi a multiplié les 5 pains et les 2 poissons pour nourrir une population qui avait faim. Comme Élie, qui a ressuscité le fils unique d'une veuve, on lit ça dans 1 Roi 17-22, eh bien, dans ce passage, on voit que Jésus ressuscite aussi un enfant. On peut aussi faire le parallèle avec Jean-Baptiste. Comme Jean-Baptiste, eh bien, Jésus a pris soin de s'entourer de disciples, et puis de les former, et puis de leur apprendre les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et puis, si on prend les trois ensemble, on voit que Moïse avec Josué, Élie avec Élisée, Jean-Baptiste avec ses disciples, eh bien Jésus a des disciples qu'il missionne et qu'il informe. Le parallèle est donc très clair. Jésus est ce nouveau Moïse, Jésus est ce nouvel Élie, Jésus est ce nouveau Jean-Baptiste. Et en même temps, Jésus est un prophète unique, plus grand que tous les autres prophètes. Dans Luc chapitre 3, Jésus vient à la rencontre de Jean-Baptiste, et il y a une voix qui descend du ciel et qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation » pour parler de Jésus. Et lors de la transfiguration, dans ce passage de Luc 9, il y a une voix aussi qui se fait entendre et qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et cela, c'est la marque, le sceau de Dieu pour dire « Oui, Jésus est un prophète, mais il est plus que cela. » Et c'est la voix de Dieu même qui l'atteste. D'ailleurs, les disciples comprennent bien, puisque au verset 20, on voit que Pierre répond à la question de Jésus « Qui suis-je ?» Pierre répond bien « Tu es le Messie de Dieu. » Le Messie de Dieu, ça veut dire que Pierre a compris, il a cette révélation, cette illumination, que oui, Jésus est un prophète, mais c'était le prophète attendu, le Messie. C'est ce que d'ailleurs signifie Christ, c'est le Sauveur, c'est celui qui est attendu, c'est celui qui est l'élu, choisi par Dieu. Christ est donc bien un prophète, mais c'est un prophète unique. Et c'est lui qui est là pour révéler davantage aux hommes qui Dieu est et ce qu'il peut faire pour nous. L'implication personnelle de ce constat, pour moi, c'est simplement de l'émerveillement devant la lucidité de Luc, qui a compris que sur la base des références culturelles très claires à l'époque pour le peuple juif, la référence aux prophètes, Moïse, Élie, Jean-Baptiste, et bien sur la base de ces références, il est possible de faire réaliser à quel point Christ est un prophète, mais c'est un prophète unique et extraordinaire. On lit au chapitre, dans Luc 3, versets 15 à 16, « Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors Jean leur dit, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » J'ai vu dernièrement ce reportage d'un alpiniste qui détient un record du monde extraordinaire. C'est celui-ci. Il a réussi en 6 mois à gravir 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude partout dans le monde. C'est quelque chose d'incroyable. Je crois qu'il me semble que le précédent record, ça avait été fait, mais sur plus de 10 ans. Donc c'est juste hallucinant. Cet homme a dépensé une énergie folle, mais aussi a des compétences au-dessus de la moyenne pour avoir réussi à réaliser cela. Mais moi, quand je réalise la structure et la manière dont Luc organise et nous présente Christ dans ce passage, j'ai l'impression de gravir 14 sommets et de découvrir à quel point les Écritures sont belles. Et la structure est là pour nous faire réaliser à quel point Christ est un prophète, mais plus qu'un prophète, un prophète unique, celui qui vient nous révéler des choses nouvelles sur Dieu et qui vient nous faire découvrir qui est Dieu. C'est moins fatigant, mais c'est tout aussi extraordinaire. Deuxième constat dans ce passage, c'est que Jésus est plus humble qu'un roi. Luc prend soin de nous montrer que Jésus est bien un roi. Il a plein de caractéristiques royales. La première, c'est qu'il envoie des messagers. C'est ce qu'on peut lire au début de Luc 9. Jésus rassembla les 12 apôtres et leur donna puissance et autorité pour chasser tous les démons et guérir les malades. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. « Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, n'ayez pas de chemise. Quelle que soit la maison où vous entrez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils allèrent de village en village, et ils annonçaient la bonne nouvelle, et faisaient partout des guérisons. Comme un roi a des ambassadeurs qui le représentent dans les différents pays du monde, Jésus ici envoie ses disciples pour le représenter dans les villages de Palestine. Et il les envoie pas. Au début, on se dit qu'il les envoie avec rien, parce qu'il leur dit de rien prendre avec eux, pas de bagages, pas de nourriture. Mais en fait, il les envoie avec un message. Et c'est ça leur bagage. Et finalement, c'est ça qui va leur faire qu'ils vont être accueillis ou pas par les gens, mais ils ont un message, ils ont une bonne nouvelle à transmettre. Voilà ce que fait un roi avec ses ambassadeurs, ils ont un message à transmettre. Ce roi, deuxième caractéristique d'un roi, c'est un roi qui nourrit son peuple, qui nourrit la foule. Je vous avais déjà dit une fois que la fortune des empereurs romains reposait sur le pain et le cirque. Le fait que les empereurs romains avaient finalement acheté la paix sociale en distribuant du pain et en organisant des événements, des spectacles extraordinaires dans les arènes, de telle sorte à ce que le peuple soit satisfait. Jésus a aussi cette caractéristique royale de nourrir son peuple, d'être celui qui prend soin des besoins de son peuple. Jésus, c'est celui aussi qui guérit son peuple. On le voit après la transfiguration, Jésus guérit un démoniaque et le libère de l'emprise qui est sur lui. Jésus, c'est celui aussi qui accueille les enfants. C'est quoi le rapport avec un roi? Bien, si vous avez déjà eu l'occasion d'étudier les régimes totalitaires, la particularité d'un dirigeant qui veut que sa population le respecte totalement, c'est qu'il a des outils de communication et il se présente notamment souvent en train de serrer les mains d'enfants. Parce qu'il veut se faire passer, il veut montrer qu'il est un bon père, qu'il est le père de son peuple. Alors l'image n'est pas terrible parce que le parallèle avec Christ s'arrête là, mais c'est une figure d'un roi, à savoir qu'un roi est censé prendre soin de son peuple, c'est le père de son peuple. Et il doit avoir le peuple sur son cœur et il doit avoir à cœur son peuple. Et Jésus, ici, accueille les enfants et c'est la preuve qu'il considère chacun de ses sujets comme digne d'importance. Qu'il soit petit, plus âgé, il considère chacun comme étant digne de considération. D'ailleurs, ce qui est assez fou dans cet épisode, c'est que au départ, les disciples sont assez réticents à laisser les enfants venir déranger Jésus. Et il fait preuve, et Jésus en fait fait preuve d'une patience aussi importante envers eux. Et c'est peut-être aussi une caractéristique royale, la patience et la capacité à accepter que les gens et les conseillers autour de soi ne voient pas forcément les choses comme on les voit. Et enfin, dernière caractéristique, c'est que bien sûr, ce roi vient donner sa vie. Et là, on rentre dans le fait que Jésus est plus humble qu'un roi. Il a des caractéristiques royales, mais il va plus loin qu'un roi. Puisqu'il accepte de se poser en modèle de sacrifice. Et j'aimerais qu'on lise et qu'on s'arrête sur les versets 18 et suivants. Un jour, Jésus priait à l'écart, et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question : qui suis-je d'après la foule ? Ils répondirent, d'après les uns Jean-Baptiste, d'après certains Élie, d'après d'autres un des prophètes d'autrefois qui est ressuscité. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur demanda-t-il. Pierre répondit, le Messie de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Jésus ici se pose en roi qui est prêt à se sacrifier et qui sait qu'il va mourir à la croix. Il annonce clairement quel est son destin. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il dit cela parce qu'il veut se poser en modèle sur le défi qui attend ses disciples. Et regardez ce qu'il dit dans les versets 23 et 24. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même ? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. » L'objectif de Jésus, en tant que roi, c'est d'être prêt à se sacrifier pour son peuple, parce qu'il considère l'intérêt général supérieur à son intérêt particulier. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il souhaite nous faire bénéficier du sacrifice qu'il a fait, mais il y a une condition. Ce verset 23 est très clair. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est un verset qui m'a transpercé le cœur quand j'avais 15 ans. Et C'était la première fois où je décidais de lire ma Bible de part en part et régulièrement. Et cette phrase m'a clairement fait réaliser que Jésus m'appelait à faire un choix. Soit vivre pour lui, soit prendre ma croix, soit le rejeter et puis ne pas vivre en tant que chrétien. En fait, Jésus explique ce qu'il veut dire par renoncer à soi-même, prendre sa croix, etc. Dans le verset 26, lorsqu'il dit « Celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Francis Schaeffer, dans « La vraie spiritualité », écrit ceci. Jésus parle dans ce verset d'une mort librement choisie dans la vie présente. Et il ne s'agit pas ici de sentiments romantiques, d'idéalisme ou d'un concept abstrait. Dans cet exemple, le rejet et la mort en question sont présentés de façon très concrète. Face à un monde hostile, il s'agit de dire non à soi-même, alors que nos désirs naturels nous poussent à rechercher l'approbation du monde, un monde pourtant en révolte contre son Créateur et notre Seigneur. Si j'utilise mes capacités intellectuelles et spirituelles pour gagner l'estime du monde, alors que celui-ci est en révolte contre son Créateur, je fais fausse route. De tout mon être, j'ai à me charger de la croix de Christ dans tous les domaines de ma vie. La croix de Christ doit être une réalité pour moi, non seulement lors de ma conversion, mais encore tout au long de ma vie. Et ça m'a rappelé le contexte dans lequel j'avais saisi l'importance de cette phrase. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. Je sortais d'un camp de jeunes que j'avais eu l'occasion de faire et où j'avais vraiment été boosté par tout ce que j'avais entendu sur le Seigneur Jésus. Et puis dans le train du retour, je tombe sur cette phrase. Et ce qui m'a frappé, c'est que très clairement dans ma tête, je me suis dit, dans 3 semaines, c'est la rentrée, je vais retourner au lycée. Et si je dis que j'accepte d'être le disciple de Christ, de renoncer à moi-même, ça veut dire que je dois être prêt à accepter que les autres m'affichent comme chrétien. Que j'ai l'étiquette, un poisson dans le dos, ce que vous voulez, mais que voilà, on voit. Et en fait, j'en suis venu assez simplement à peser le pour et le contre et à me dire, bon, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce que Christ m'apporte? Est-ce que le fait d'accepter que Christ soit celui qui me dirige et qui soit le maître de ma vie, c'est un bénéfice ou bien c'est une perte? Et en fait, la réponse, c'est les deux. Ça voulait dire que j'acceptais que désormais, il y avait quelqu'un d'autre avec moi dans ma vie qui soit celui qui transpire à travers ce que je suis, et ce que je dis, et ce que je vis, ce que je pense, et c'était Christ. Et du coup, j'ai fait le choix de prier, de me tourner vers Christ, de prier et de lui dire, maintenant j'accepte que tu sois le maître, que tu sois pas seulement le sauveur de ma vie, mais que tu sois le maître de ma vie, que tu sois le seigneur de ma vie. J'accepte de renoncer à moi-même et puis de me charger de ta croix chaque jour, de telle sorte à pouvoir vivre d'une manière qui te plaise. Francis Schaeffer a résumé cette démarche en 3 mots. Rejet, crucifixion, résurrection. Le rejet, parce que c'est ce que Christ a fait, il a été rejeté. Il a été crucifié et il est ressuscité. Et c'est exactement la même chose qui nous invite à vivre. Si on l'accepte comme notre Sauveur et notre Seigneur, ça peut provoquer du rejet, de l'incompréhension, une manière de voir le monde différente par rapport aux personnes que l'on connaît. Et ça veut dire aussi accepter d'être crucifié avec Christ, de mourir à nous-mêmes, que ce ne soit plus nous qui soyons sur le trône de notre cœur, mais Christ. Et en même temps, c'est la perspective extraordinaire de la résurrection, qui est déjà effective aujourd'hui et qu'on verra de manière encore plus effective plus tard, à savoir que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis une nouvelle créature et je peux être en relation avec Dieu. Et croyez-moi, ce choix que j'ai fait quand j'avais 15 ans, il y a à peu près 10 ans en arrière, je plaisante bien sûr, je le regrette pas, Et je peux dire que oui, vivre avec Christ et accepter que Christ soit le maître de ma vie, c'est juste extraordinaire. Cette nouvelle vie, d'ailleurs, elle est tout de suite confirmée par la transfiguration, qui est le passage suivant dans ce chapitre 9 de Luc. Qu'est-ce qu'il se passe lors de la transfiguration? En fait, c'est un avant-goût de la résurrection. Jésus-Christ a un visage glorifié et il discute avec Élie et avec Moïse. Et ensemble, ils parlent de quoi? Ils parlent de la croix, ils parlent de la mort de Christ, de son départ de la terre. Parce que qu'est-ce qui est au centre finalement de notre foi? Eh bien, c'est la mort de Christ. Et paradoxalement, c'est cette mort qui nous fait vivre, qui fait battre notre cœur, qui nous réjouit et qui nous donne cette vitamine B dont on a tellement besoin, surtout quand le ciel est gris comme en ce moment et que il n'y a rien qui marche comme on aimerait que ça marche. Vous savez quelles sont les quatre molécules qui composent la vitamine B? C'est J-O-I-E, la joie. Et c'est pour ça que ça fait tellement du bien de se nourrir cette vitamine tout au long de la semaine. Alors que Christ vient de vivre la transfiguration, qu'il a eu un moment extraordinaire avec Élie et Moïse, que son visage a rayonné, le retour sur terre est un peu violent. Je ne sais pas si vous avez vu le retour sur terre de la capsule de Thomas Pesquet, qui est avec un parachute, là, et ça tombe comme ça. Ils sont un peu secoués. Mais là, Christ, à côté, c'est pas secoué qu'il a été. C'est limite si on lui avait mis une claque dans la tête pour le réveiller après l'extraordinaire moment de la transfiguration. Les disciples discutent entre eux de qui est le plus grand parmi eux. C'est tellement terre à terre, c'est tellement sans grand intérêt par rapport à ce que Christ a vécu, qu'on se dirait que Christ aurait pu s'énerver après eux. Mais non, pas du tout. À travers l'exemple des enfants qu'il accueille, il leur rappelle que le plus grand parmi eux, c'est celui qui se fait le serviteur des autres. Et là encore, il nous montre à quel point être un roi humble, c'est tout l'inverse des codes terrestres qu'on a l'habitude de savoir. Un roi, selon Christ, c'est un roi serviteur, c'est celui qui se met au service des autres, et c'est pour ça qu'il nous invite aussi à le faire, à nous servir les uns les autres. On a vu ensemble donc dans ce passage que Jésus-Christ est à la fois un prophète, mais plus grand qu'un prophète. On a vu qu'il est un roi, mais plus humble qu'un roi. Et la semaine prochaine, on aura l'occasion de voir avec la poursuite de ce parcours dans Luc, et l'intervention de Pierre, qu'une nouvelle étape se prépare. Verset 51, qui est un verset clé dans l'évangile de Luc, c'est un tournant majeur, commence une nouvelle étape. Lorsque approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Et nous allons commencer ensemble à suivre ce voyage de Jésus jusqu'à Jérusalem. Et ça va nous porter pendant quelques mois, jusqu'au mois de mai. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, ça fait du bien de pouvoir prendre du temps ensemble pour juste considérer qui tu es, nous arrêter et simplement réaliser à quel point Christ est merveilleux. C'est à la fois le Fils de l'homme qui est venu sur terre avec toutes les caractéristiques d'un homme, mais Luc nous le montre bien, avec aussi l'objectif de nous montrer que cet homme était un homme extraordinaire, à la fois un prophète et plus qu'un prophète, à la fois un roi et plus humble qu'un roi. Ô Seigneur Jésus, je te prie que nos cœurs puissent rester émerveillés et puissent se réjouir de voir à quel point Christ est notre Sauveur, celui dont nous avons besoin pour être en relation avec Dieu et pour pouvoir prendre de la hauteur, pour pouvoir vivre sur cette terre, quelles que soient les blessures qui sont sur notre cœur, quels que soient les aléas que nous rencontrons dans notre vie, que nous puissions arriver à voir plus haut et réaliser que ça vaut le coup de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de la croix de Christ et d'aller de l'avant avec lui dans la perspective de la résurrection. Merci parce que tu nous en donnes déjà un avant-goût à travers la relation personnel que nous pouvons avoir avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.